Bonjour, c'est Briac de Besoin d'Aventure. Aujourd'hui, je suis avec Céline Mouly, qui est une grande voyageuse et plus particulièrement une spécialiste du Ladakh. Bonjour Céline.
Bonjour Briac.
Peux-tu te présenter et nous parler de tes activités autour du voyage?
Alors mes activités autour du voyage, elles sont nombreuses en fait. Je crois que quand on aime le voyage, on développe des projets pour nourrir sa passion. Donc inévitablement, ça amène à pas mal de choses. Moi, j'ai commencé à voyager assez tard. Finalement, enfin, j'avais quoi, 18, 20 ans. Avant, j'avais jamais pris l'avion. J'étais pas issue d'un milieu forcément de voyageurs. Et j'ai rencontré l'Himalaya assez vite, assez tôt finalement dans mon parcours. C'était en 99 et j'étais partie avec l'idée de faire un reportage interactif parce que c'était le début d'Internet et que je trouvais que cet outil était absolument extraordinaire pour mettre les liens, les gens en relation les uns avec les autres. J'étais avec mon compagnon qui est toujours mon compagnon actuel d'ailleurs, qui était lui qui partait dans le sur une carrière plutôt internet et moi plus sur le film et l'audiovisuel. Et on avait fait un projet de documentaire interactif pour partir à la rencontre des réfugiés tibétains. Et reportage interactif, c'était on voulait le retour des gens, on voulait avoir leur avis avant de dire quoi que ce soit, consulter avant finalement de monter un film. On trouvait que c'était important. Consulter avant de faire un film, c'était quelque chose à cette époque-là. Comment, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on nous demande? On s'était mis en relation avec des écoles. Finalement, le public était plus dans l'attente et se plaçait beaucoup plus en récepteur à cette époque que ce qui peut être aujourd'hui, où il est beaucoup plus participatif, il échange, il donne son avis sur tous les blogs, les forums, etc. Donc, c'était il y a quoi? Il y a même pas 20 ans et les mœurs ont vraiment changé par rapport à ça. En tout cas, moi, personnellement, j'ai rencontré l'Himalaya et à partir de là, j'ai plus eu envie d'en découdre. Il fallait que j'y retourne, que je comprenne ce qui se passait. C'est un milieu qui m'intéressait parce que en évolution géopolitique, en évolution par rapport à la modernité, la culture, il y avait le Tibet, mais il y avait aussi le Ladakh. Et le Ladakh, c'était ce qu'on appelle un petit Tibet. Et en
Alors,
fait, c'est une terre d'Himalaya qui a évolué différemment de la terre tibétaine sous le joug chinois. Et donc, c'est une culture qui avance, qui progresse. Tu voulais me poser une question?
ouais, je voulais te demander si tu pouvais nous situer le Ladakh pour ceux qui ne savent pas bien le situer.
Tout à fait, c'est une bonne question. C'est chez moi, donc c'est à côté. Le Ladakh, quand on regarde la chaîne himalayenne, ça se trouve en Inde, dans le nord de l'Inde, dans la petite langue qui monte sur l'Himalaya au nord de l'Inde. L'Inde, c'est une région qui se trouve entre le Pakistan et la Chine, c'est-à-dire le Tibet chinois, donc une région soumise à des pressions géopolitiques fortes. Et quand on continue dans le prolongement, eh bien on est juste à côté du Tibet, sauf qu'il n'y a absolument aucun passage possible entre le Tibet et le Ladakh. Donc les réfugiés tibétains, en fait, ils descendent par le Népal et ils remontent par l'Inde pour remonter au Ladakh. Et il y a beaucoup de réfugiés tibétains qui se retrouvent là parce qu'on est dans la même culture, on est dans la même atmosphère, un air sec. On est vraiment dans les hauteurs himalayennes et la culture tibétaine continue de progresser, d'évoluer librement sous une politique, une démocratie indienne.
D'accord.
Cette terre, c'est intéressant parce qu'elle a été fermée aux étrangers jusqu'à dans les années 74-76. Elle avait été fermée parce qu'il y avait eu en Inde l'indépendance de l'Inde. Donc la région qui se trouve au nord, c'est celle du Cachemire qui a été disputée avec le Pakistan. Et donc, on a fermé cette région aux étrangers à peu près dans les années 59, qui est aussi la date de fuite de pas mal de Tibétains. Donc, c'est une région où il s'est passé pas mal de choses en dehors du regard étranger. Et puis dans les années 70, elle s'est ouverte doucement et d'un seul coup, Nous, on a pu y aller et eux, ils se sont ouverts également. Donc, ça fait une terre qui évolue depuis simplement une quinzaine, pas une quinzaine, pardon, une quarantaine d'années, une petite quarantaine d'années, qui évolue au regard de l'Occident et qui évolue très vite. Et donc, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans cette terre, c'est de la mettre en perspective avec notre propre évolution, nos propres erreurs, la façon dont ils regardent le monde, la façon dont ils avancent avec lui. Et à l'heure d'aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau technologique, au niveau de la société, on est sur un plan d'égalité, avec des contraintes qui sont différentes, parce qu'ils sont évidemment en Himalaya. Mais en tout cas, ça va changer ma perspective du voyage. C'est ça qui est intéressant, je pense, par rapport à ta question initiale sur le voyage. Ça a changé ma perspective. C'est-à-dire que j'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie de découvrir plein de cultures et j'ai toujours envie d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Pas tant sur le point de vue du paysage, parce que évidemment, les paysages, c'est fascinant, c'est grandiose, les grands espaces, c'est une vraie passion. Mais les cultures, la façon dont les gens vivent, la façon dont ils se regardent les uns les autres, comment ils échangent les uns les autres, comment ils pensent, toute la vie, la naissance, la vie, la vieillesse, la mort, tout ça, ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup. Et c'est pour ça que je trouve que voyager, ça doit se faire dans la durée. C'est pas c'est un voyage, c'est forcément long. On passe plusieurs semaines, c'est peu dire, mais plusieurs mois surtout, ou alors on revient au même endroit et on approfondit, on découvre. On peut pas prétendre connaître un tout petit peu une région si on y a passé 2 semaines, 3 semaines. On a vu, on a aimé, on n'a pas aimé, on a un feeling, mais on n'a pas vraiment voyagé.
Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément énormément de temps, qui ont quelques semaines de vacances, on va dire, entre guillemets,
De congés payés.
comment?
De congés payés. Quand on voyage longtemps, on se donne les moyens d'avoir d'autres revenus. C'est-à-dire que déjà, souvent, quand on voyage dans certains pays, le niveau de vie est moindre. Donc, plus on voyage longtemps, plus on amortit son voyage. Parce qu'en fait, on paye moins cher de nourriture, on paye moins cher d'hébergement, tout un tas de choses qui font que finalement, le voyage ne coûte pas si cher que ça. Et puis, il y a aussi le long cours où, en fait, on travaille au fur et à mesure de son voyage et on gagne son argent au fur et à mesure de son voyage. On apprend à vivre de peu. Mais en tout cas, c'est une autre discipline. Une autre façon de s'engager que de simplement partir pendant ses congés payés. Ou alors on prend un congé sans solde, ou alors on peut pas être lié à un contrat de travail si on veut vraiment voyager. On ne peut pas s'investir dans un voyage. Il faut à un moment ou à un autre lâcher quelque chose.
Alors justement, est-ce que tu peux donner un conseil, est-ce que tu penses à un conseil que pour des gens qui ont du mal à se lancer justement dans ce genre d'aventure, de voyage, où il faudrait bah, justement lâcher certaines choses?
Rousseau, il disait que c'était la rupture du contrat social. Donc, il faut pas lâcher un petit quelque chose, il faut lâcher beaucoup de choses pour se lancer dans le voyage. Je sais pas, je pense que c'est aussi une façon d'être. J'ai lu des articles et je suis assez convaincue de ça. Il existerait un gène du voyage. Il y a un gène du voyage qui a été mis en évidence par un chercheur qui s'appelait Chun-Sang Chen, il doit être chinois, qui a été repris par un Américain du National Geographic, David Dobbs. Ils ont fait des articles dessus et que j'ai lu avec attention. Et il y aurait un gène dont serait pourvu à peu près une vingtaine de pourcents de la population qui nous pousserait à prendre des risques. La satisfaction, le bonheur viendrait en assouvissant ce désir, besoin d'aventure, puisque c'est le nom de ton blog, ce besoin que moi j'appelle aussi le désir d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un anthropologue du voyage qui s'appelle Franck Michel qui a beaucoup parlé de ça et pour que j'aimerais interviewer d'ailleurs dans un prochain film que j'ai rencontré récemment et qui serait tout à fait partant pour ce projet-là. Ce besoin d'aventure, ce désir d'ailleurs, c'est un peu dans notre corps. C'est pas le virus du voyage, c'est le gène du voyage en quelque sorte. Et ça, c'est des gens qui sont peut-être plus curieux, plus impatients, qui ont une passion du voyage, qui ont besoin de mouvement, de changement, qui peuvent pas se satisfaire d'une routine dans leur existence. Alors par contre, ça peut les mettre en danger dans beaucoup de choses. Ça les pousse à avoir des réactions plus irrationnelles. Ils sont parfois beaucoup plus sensibles, plus électriques. Mais c'est peut-être des gens qui vont être plus enclins à faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à tout lâcher, à lâcher la sécurité pour partir voyager. Alors, le conseil peut-être le plus rationnel qu'on peut donner, c'est de ne pas lâcher son boulot, parce que, évidemment, à l'heure actuelle, on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, il faut quand même être conscient de ça. Mais peut-être que si on veut voyager un peu longtemps, se donner les moyens de le faire, si on a la chance d'avoir un travail, ben mettre un peu d'argent de côté, et puis à un moment ou à un autre, prendre un congé sans solde pour partir plus longtemps et entreprendre vraiment un voyage en famille, seul. Je trouve que la famille ou seul, c'est mieux. À deux, c'est peut-être presque une erreur parce que sinon, on a peut-être tendance à se réfugier dans le duo, alors que seul, on est obligé de se confronter aux autres. Et en famille, on est aussi obligé de se confronter aux autres davantage.
Alors une petite dernière question, pour toi, c'est quoi avoir l'esprit d'aventure?
Ah ben, l'esprit d'aventure, c'est peut-être un petit peu tout ce que je t'ai dit juste avant, c'est-à-dire. L'esprit d'aventure, c'est avoir un besoin de repousser les limites, de s'affranchir d'une certaine sécurité. C'est être curieux, curieux de tout, d'avoir envie de rencontres, de découvertes, avoir envie de bouger, de vivre avec son corps, de vivre quelque chose d'autre avec l'intégralité de son corps, tous ses sens en éveil. C'est pas simplement rêver, lire ou se projeter, même si ça peut faire du bien. Il y a besoin du contact physique, il y a besoin de bouger, de se déplacer, d'aller à la rencontre, de s'ouvrir sur des choses nouvelles. C'est une sorte d'insatisfaction permanente. On a besoin d'assouvir un besoin de connaissance, je pense.
D'accord. Tu connais donc bien le Ladakh. Est-ce qu'il y a des itinéraires incontournables à pied, à vélo, là-bas?
Alors oui, il y a des itinéraires incontournables. On parle de la grande traversée du Zanskar qui fait 21 jours. Mais le Ladakh, ce qui est intéressant aussi par rapport à justement l'esprit d'aventure dont on parlait juste avant, c'est que c'est la terre de l'impermanence. C'est-à-dire tout bouge, tout change parce qu'ils sont en évolution, mais aussi c'est une terre qui bouge de façon sismique. C'est une terre qui ne tient pas d'un point de vue. C'est pas de la roche solide, donc il y a des éboulements de terrain. Ça bouge, ça bouge beaucoup. Donc les itinéraires sont jamais vraiment les mêmes du fait des conditions climatiques, mais aussi parce que des routes progresse. Donc cette fameuse route de la grande traversée du Zanskar qui est incontournable, il y a une route qui l'emprunte sur une partie. C'est donc plus forcément une terre incontournable du trekking. Maintenant, il faut inventer ces nouvelles routes aussi. Il y a toujours des chemins muletiers, aller à droite, à gauche, à vélo, oui. Le vélo, c'est exceptionnel au Ladakh. Alors oui, on est à plus de 3 500 mètres d'altitude. Récemment, je discutais avec une agence de voyage à vélo française. Ils disaient, bah oui, mais le Ladakh, ça marche pas trop bien à vélo. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient mis le Ladakh dans les treks un peu sportifs, genre ce qu'on peut faire dans les Vosges, dans les Alpes, vraiment le truc agressif. Je dis, mais vous pouvez pas faire ça à 3 500 mètres d'altitude. Vous allez mourir. Il y a pas assez d'air pour faire un effort pareil. Le vélo au Ladakh, au Zanskar, c'est un vélo de rando. De rando, alors ça peut être un petit peu sportif, mais ça sera pas les championnats du monde de VTT. Ça, c'est pour le coup, c'est irrationnel. Donc, voyager à vélo, c'est super au Ladakh parce qu'il y a plein de pistes justement qui s'ouvrent, des nouvelles routes qui rendent les choses un peu plus faciles. Et puis ça permet de toujours découvrir à une vitesse relativement lente des paysages grandioses. Donc oui, le vélo, ça s'y prête complètement, à 3 500 mètres et même au-delà, jusqu'à 4 500, 5 000 mètres. Quand on gère son effort, à partir du moment où on est capable de gérer son effort de la même façon qu'on le gère à la marche, en trek, Le vélo, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, accessible, dès l'instant où on a une bonne santé et où on réagit bien à l'altitude. Ça, on ne peut pas le savoir avant d'y être allé.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour
Merci à
répondre
toi.
à mes
Bon courage.
questions. Et puis à bientôt. Donc j'ai mis des liens en dessous sur vers les sites que tu as pour ceux qui veulent aller voir un petit peu plus loin, te connaître un peu plus, voir ce que tu fais. Et puis ben, on te souhaite plein de belles aventures pour la suite.
Eh bien, je te remercie. À bientôt. Bon courage pour besoin d'aventure. Au
Merci.
revoir.
Au revoir.